Et je vais donc parler des politiques de la vie. Et juste avant de commencer, je voudrais juste dire que plus que d'un usage de Foucault, il s'agit peut-être dans mon texte d'un usage de Canguilhem, d'un usage théorique qu'on peut en faire pour la pensée de Foucault et pour après peut-être en faire un usage de Foucault, de cette politique ou biopolitique de Foucault. Et je pense qu'on verra des exemples dans la journée et dans la matinée surtout. Donc voilà, je commence. Dans son essai « L'immanence absolue, une vie », Georges Agamben souligne que ni Gilles Deleuze ni Michel Foucault aient jamais donné une définition de la notion de vie, qui pourtant occupe une position centrale dans leurs réflexions respectives. On m'entend bien, c'est... D'accord, merci. L'occasion de ce constat sont deux textes, qui se caractérisent entre autres par le fait d'être les derniers textes ayant reçu l'imprimatur, le bon attiré du vivant de leurs auteurs. Il s'agit d'un côté de l'introduction écrite par Foucault à l'occasion de la publication américaine du Normal et du Pathologique de Georges Canguilhem, republiée en 1985, donc un an après la mort de Foucault, intitulée « La vie, l'expérience et la science ». De l'autre côté, Agamben cite le court et assez mystérieux texte de Deleuze, « L'immanence, une vie », publié 2 mois avant la mort de son auteur, donc en 1995. À part le hasard que Agamben appelle remarquable, que les deux textes traitent devant l'imminence de la mort de leurs auteurs de la notion de vie, restée pourtant une notion vague et indéfinie dans leur pensée, Agamben constate que dans le texte de Foucault, je cite, « étrange renversement du point de vue sur la vie », qui est considéré désormais avec Canguilhem comme fondamentalement transi par l'erreur. Par la suite, Agamben insiste sur la coïncidence de la découverte de ce champ de la vie et de ses errances avec le début des analyses de la biopolitique chez Foucault. Il identifie en plus à ce troisième axe que Deleuze avait explicité dans la pensée de Foucault, la généalogie du sujet qui ne prendrait son essor qu'avec la crise, à l'issue de la crise entre guillemets, à l'issue de la volonté du savoir, se terminant sur le constat d'une impasse, selon Deleuze. C'est selon Deleuze, pour affiner la figure de cette impasse, pour démêler un chemin encore peu perceptible, comme il dit, pour penser ce troisième axe comme véritable affirmation de la vie, que Foucault procède à un remaniement de sa pensée annoncé dans l'introduction de l'usage des plaisirs. Deleuze attache au remaniement de la théorie du pouvoir, cristallisé dans la notion de biopolitique, un remaniement corrélatif de la notion de résistance, qui, comme il explique, devient, devant l'imminence du vital, elle-même, je cite, « pouvoir de la vie », pouvoir vital, non réductible à la dimension organique de la vie, car la vie est, je cite Deleuze, « cette capacité de résister de la force ». Ce serait donc dans une certaine idée de la vie, un certain vitalisme que culminerait la pensée de Foucault. Pour Deleuze, cette notion de vie qu'il désignera dans le texte cité par Agamben comme une vie indéfinie, impersonnelle et pourtant singulière, une équité, semble porter en soi la promesse d'une force existant au-delà des relations du pouvoir, d'une force venue d'ailleurs qui voit s'articuler dans le dernier Foucault, celui de l'esthétique de l'existence. Dans ce qui suit, je voudrais montrer qu'une telle lecture passe, selon moi, à côté de la signification de la positivité du pouvoir dont parle Foucault en rapport avec l'introduction de la biopolitique et qui ne propose nullement une alternative au pouvoir, mais désigne bien au contraire le fonctionnement du pouvoir post-souverain. Un pouvoir, donc, qui n'est pas répressif, mais qui investit la vie de façon positive, c'est-à-dire qu'il investit dans ses stratégies de protection, d'évitement de risques et de soucis de soi, en obéissant aux impératifs positifs du développement, du renforcement et de l'organisation de la vie de la population. Si la notion de vie est donc centrale pour la compréhension de cette forme de pouvoir, que Foucault désigne tantôt explicitement comme biopolitique et que tantôt il reformule sous le nom de gouvernementalité, ce n'est pas en raison du fait que sa force constituerait une échappatoire aux relations de pouvoir, mais bien plutôt en raison de l'hypothèse que je voudrais donc exposer ici, selon laquelle la nouvelle forme du pouvoir adopte la logique même de la vie afin de s'exercer de manière plus intime, moins éclatante, plus proche des individus constitués en population et donc de manière plus efficace. Il faudra donc revisiter la notion foucaldienne de biopolitique pour montrer que non seulement s'agit-il d'un pouvoir sur la vie, mais qu'en plus sa spécifique positivité consiste dans le fait qu'elle imite la dynamique de la vie, que ses stratégies fonctionnent comme si elles étaient vitales. Cette hypothèse suppose donc un examen de la compréhension de la vie qui sous-tend les analyses biopolitiques, c'est-à-dire plus spécifiquement de son caractère d'indétermination ou d'indéfinition qu'Agamben dénonce chez Foucault et dont il faudra monter qu'il n'est justement pas le résultat d'un oubli ou d'une inexactitude, mais bien celui d'un choix stratégique. Ou pour le dire autrement, Foucault, quand il a recours à une notion de vie dans son indéfinition, n'adopte pas une perspective ontologique, comme c'est le cas dans la pensée de Deleuze, mais bien au contraire une perspective archéologique. Je vais donc brièvement analyser dans un premier temps cette occurrence de la vie comme corrélat des techniques de savoir et de pouvoir dans la pensée de Foucault, et dans un deuxième moment, je voudrais étudier les liens conceptuels entre une vie comme corrélat archéologique et la notion de vie introduite par Georges Canguilhem, comme fondamentalement transit par une double normativité qui oscille entre une dimension du normal et celle du normatif et qui informe, telle est mon hypothèse, les analyses du biopouvoir et permet de comprendre la spécifique positivité du pouvoir dont parle Foucault. C'est sur ce fond qu'il faudra, dans un dernier moment, reconsidérer les thèses biopolitiques de Foucault afin de constater qu'il introduit lui-même une notion plus large de la biopolitique sous le nom de gouvernementalité qui n'est pas uniquement définie par son rapport à la vie en tant qu'objet, mais de plus par le fait que la logique du pouvoir, j'ai déjà dit ça, imite la dynamique de la vie qu'elle adopte comme modèle de fonctionnement. J'en viens donc à ma première partie. Et pour commencer, je voudrais brièvement parler de la notion de vie chez Foucault qui reste, comme Agamben l'a dit, indéfinie. Afin de comprendre la fonction de cette sous ou indéfinition, il faut préciser deux choses. Premièrement, l'indéfinition de la notion de vie ne représente pas, comme Agamben semble suggérer ici, et de façon encore plus concrète, dans sa réinterprétation de la biopolitique foucauldienne dans Homo Sacer, donc elle ne représente pas un contretemps, un oubli ou un démérite de la part de Foucault que, je cite Agamben, « la mort a empêché de développer toutes les implications du concept de biopolitique ». Fin de citation. Et deuxièmement, cette indéfinition n'est pas à entendre dans un sens ontologico-politique, à savoir dans le sens d'une radicale résistance à être définie, à être intégrée dans l'organisation des corps et dans l'organisme, dans leur lieu à une vie minoritaire, incarnée de façon paradigmatique par le « I would prefer not to », la résistance passive, entre autres, du Bartleby de Melville. Au contraire, l'abstention de donner une définition de la vie correspond chez Foucault à un choix stratégique, car la vie occupe dans l'œuvre de Foucault une fonction archéologique. Elle apparaît en tant que corrélat des changements et déplacements dans l'ordre du savoir, d'abord, c'est en elle que se cristallisent ces changements, et en tant que corrélat des stratégies du pouvoir, surtout à partir des études biopolitiques et gouvernementales. Ainsi, dans les travaux dits épistémologiques, la vie est l'élément dans lequel se cristallise la rupture épistémique de 1800 et sa condition corrélative lui ôte toute détermination conceptuelle. La vie est le concept par rapport auquel est exemplifiée et rendue compréhensible cette rupture qui donnera naissance à la biologie comme science de la vie au début du 19e siècle. En même temps, la notion de vie elle-même émerge que dans et grâce à cette rupture épistémologique qui rassemble les êtres vivants sous la notion biologique générale de la vie. L'usage de la notion de vie suit donc la logique de la pensée foucauldienne qui, par l'analyse des discours, interroge les conditions historiques de l'émergence des régimes de savoir et de pouvoir. La vie, telle que Foucault l'a en vue, est transie par les techniques de savoir et de pouvoir qui tout d'abord la produisent en tant que la vie. Il n'y a pas de vie naturelle au-delà de son inscription dans les techniques du savoir. Ainsi, la force vitale constatée par le vitalisme, et je cite Foucault dans les mots et les choses, et son effort pour définir la spécificité de la vie ne sont que les effets de surface de ces événements archéologiques, fin de citation, à savoir de la fracturation en profondeur du tableau de l'histoire naturelle et de l'opposition fondamentale de la vie et de la mort énoncée par Xavier Bichat. De manière analogue, Foucault montrera dans les analyses de la biopolitique, ou plutôt de la gouvernementalité, comment le nouveau personnage politique, la population, est tout d'abord produit par le biopouvoir comme l'objet par excellence artificiel et naturel à la fois de ces techniques. Foucault entreprend donc une archéologie de la vie qui emprunte un chemin alternatif à celui du constat que la vie, de même que le travail, le langage, est devenue au seuil du XIXe siècle un quasi-transcendantal. C'est l'autre versant de l'événement, dit-il dans les mots et les choses, à savoir de la formation de la pensée au seuil de l'âge moderne, Celui qui concerne les positivités, je cite, les positivités sur lesquelles s'accrochent nos connaissances empiriques, et ceci en leur être même, en leur enracinement, que Foucault se propose d'analyser dans les mots et les choses de façon archéologique, à savoir en décrivant les conditions des événements ayant effectivement eu lieu des positivités, et non plus, comme dans le projet critique ancien, en expliquant les conditions de possibilité de l'expérience. Foucault analyse donc le discours sur la vie, ses déplacements et ruptures, au lieu de s'investir, évidemment, dans une science de la vie. La réflexion de la vie se maintient à un niveau archéologique et présente la vie comme un corrélat ouvert qui appelle à son investissement par des techniques de savoir-pouvoir. C'est cette intuition fondamentale d'une ouverture stratégique de la vie qu'Agamben méconnaît, à mon avis, quand il réduit dans son analyse de la biopolitique la vie investie par le biopouvoir à la vie nue, c'est-à-dire à une vie dénudée de toutes ses qualités, donc une vie transhistorique, et quand il collapse par conséquent le régime biopolitique dans l'exception souveraine. La pensée de Foucault ne culmine donc nullement dans un vitalisme deleuzien d'une force vitale, se situant au-delà des relations de pouvoir dans une radicale passivité ou réfraction, ni non plus dans la version agambénienne restée bien vague jusqu'à présent, de forme ad vitam ou de forme de vie supposée produire une force résistante grâce au passage de la vie par toutes les formes et grades de sa déqualification. Au contraire, je voudrais interroger la spécifique ouverture de la vie à la lumière de la précarité de la vie, donc de la notion de vie que Canguilhem introduit dans ses écrits, notamment à la suite des études d'Aubichat. Dans ce qui suit, je voudrais donc interroger la question de la vie dans l'analytique du pouvoir foucauldienne à la lumière du vitalisme reformulé canguilhemien qui me semble informer ses analyses. Donc je viens à la deuxième partie. Pour procéder à une telle généalogie de la vie, investie par la biopolitique, s'impose alors la référence à Canguilhem, qui de son côté comprend la notion de vie de la biologie moderne en rapport avec un certain savoir qui est également à la base du développement du pouvoir sur la vie. Canguilhem introduit une notion de vie qui se définit par son ouverture, à savoir par son inachèvement ou sa précarité constitutive. Ce constat de la précarité de la vie donne lieu à deux conséquences dans la pensée de Canguilhem, une conséquence épistémologique ayant trait à la connaissance de la vie, une conséquence normative qui est traduite dans la notion de normativité vitale mise en avant par Canguilhem et qui diffère des intuitions vitalistes traditionnelles, animistes ou naturalistes, mais également d'un vitalisme deleuzien producteur de différences non assimilables et qui se situe au-delà du vocabulaire normatif. La connaissance de la vie, dans ce qu'elle a de vraiment vital, est donc uniquement possible grâce aux erreurs de la vie qui renvoient chaque être vivant à son imperfection constitutive. C'est ce que Bichat avait expliqué en opposant les sciences physiques obéissant à des lois invariables et constamment les mêmes, aux sciences physiologiques, elles seules capables de percevoir un objet d'étude soumis à des variations imprévisibles, ou dans les mots de Bichat, je cite, à l'instabilité et à l'irrégularité essentielles aux phénomènes vitaux. Fin de citation. Dans une perspective normative, Canguilhem définit la vie comme une activité orientée de façon intrinsèque vers des valeurs vitales, c'est-à-dire programmées pour éluder les valeurs négatives, la maladie, la monstruosité, la mort, qui la menacent en permanence. La vie apparaît comme un mode d'existence dynamique qui tend à atteindre son type naturel, pris pour norme et produit par le processus vital lui-même, et non pas, évidemment, imposé à la vie de l'extérieur. Ce constat de la fondamentale irrégularité de la vie, c'est-à-dire de sa capacité à se dévier, de sa réceptivité pour les valeurs négatives, déploiera toute sa profondeur théorique dans une perspective normative de la vie, en rapport avec le constat de la priorité de l'infraction sur la règle dans les nouvelles réflexions de Canguilhem. Un constat que Canguilhem réaffirme dans son article « Vie », publié dans l'Encyclopédie, où il écrit que, je cite, « la valeur de la vie comme valeur, s'enracine dans la connaissance de son essentielle précarité ». Fin de citation. Il existe donc une connexion fondamentale entre l'essentielle précarité de la vie et sa dynamisation, c'est-à-dire le développement d'une tendance à l'autocorrection qui s'exprime dans la capacité de l'organisme à tolérer ou à guérir des états pathologiques jusqu'à un certain degré. Cependant, cette tendance autocorrective prise seule donnerait lieu à une compréhension purement biologiste, organique de la vie, ou, pour le dire avec Canguilhem, pathologique. Car la vie tend bien vers son autorégulation ou autocorrection, c'est en ceci qu'elle est organique, mais elle implique également le dépassement ou la mise en question constante de la normalité établie. la précarité des processus vitaux est par conséquent fondamentale dans ce sens précis, parce qu'elle est constamment actualisée par une vie proprement vitale, autrement cette vie serait pathologique. Par conséquent, la dynamique se dédouble dans et par la priorité de valeurs négatives sur les valeurs positives. La vie est organique par sa tendance à l'homéostasie, c'est-à-dire au maintien d'un équilibre organique intérieur, ou du fameux milieu intérieur. Mais cet équilibre organique et homéostatique est remis en question en permanence par une dynamique vitale d'autodépassement qui n'est pas assimilable par les tendances autorégulatrices de l'organisme, mais représente un excès par rapport à cette tendance, une résistance interne à l'immobilisation dans l'état d'équilibre. C'est cette vitalité qui permet aux vivants de s'écarter de ses propres normes. La vie normale est donc la vie normative, dit Canguilhem, c'est-à-dire une vie qui ne s'adapte pas à un milieu, à une norme donnée, mais qui les remet constamment en question et crée ses propres normes. Sa normativité, je cite, consiste à faire craquer les normes. L'enjeu de la notion canguilhemienne de vie consiste alors dans le fait que la normalité organique se voit en permanence exposée aux écarts normatifs. La vie ne s'arrête pas sur un état d'équilibre, tel qu'il est créé de manière artificielle au laboratoire, par exemple, mais met cet équilibre à l'épreuve et le dépasse. Autrement, c'est-à-dire si la vie n'était que organisme, elle se trouverait régie par des constantes pathologiques à valeur répulsive et strictement conservatrice, écrit Canguilhem. Mais au lieu de cela, la vie est polarité, donc organique et créatrice en même temps, c'est-à-dire vivante. Canguilhem reformule par conséquent un vitalisme au-delà de son opposition éternelle avec le mécanisme, mais également au-delà des notions classiques de principe vital ou d'entéléchie. Le vitalisme est la pensée du vivant à partir du vivant, d'un vivant lui-même habité par une double logique qui peut être formulée en termes de précarité et d'autocorrection si et seulement si la précarité excède la tendance autocorrective, c'est-à-dire la normalité homéostatique de l'organisme qui, je cite, « n'existe que par les écarts normatifs de ce même organisme ». Fin de citation. C'est cette notion de vie qui, telle est l'hypothèse, informe les analyses du biopouvoir et sa spécifique positivité, car c'est justement la double dynamique de la vie qui fonde le rapport du biopouvoir à la vie, qui est lui-même double, car la vie est bien l'objet des techniques du biopouvoir, contrairement au sujet du droit, objet du régime souverain ou de l'individu, objet du régime disciplinaire, mais il en est également le modèle. C'est en ceci qu'il est important de tenir compte de la notion de vie canguilhemienne, car les techniques du pouvoir imitent la dynamique propre de la vie, c'est-à-dire sa polarité entre le maintien et la transgression, le dépassement de l'équilibre vital. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que Canguilhem lui-même établit un rapport entre la norme vitale et sociale, notamment dans les textes des Nouvelles Réflexions, mais en insistant toujours sur la prédominance du vital sur le social. C'est ainsi qu'il adresse la question du social en vue d'une meilleure compréhension du vital. Je cite « C'est en vue de l'organisme que je me permets quelques incursions dans la société ». Fin de citation. Canguilhem traduit cette réserve par la limitation de l'explication du social par le vital à la dimension organique du vital. Ainsi, il explique qu'il faut voir, je cite, « dans les tentatives des planifications techniques des essais de constitution d'organes par lesquels une société pourrait présumer, prévoir et assumer des besoins au lieu d'en être réduite à les enregistrer, à les constater par des comptes et des bilans ». L'ordre social tend à imiter l'organisation vitale en tant que système auto-organisé capable de maintenir un équilibre intérieur, une homéostasie sans tenir compte de sa polarité, c'est-à-dire de sa tendance transgressive de cette même homéostasie. C'est pourquoi Canguilhem insiste sur l'extériorité de la norme sociale au sujet normé. La population. Dans une organisation sociale, je cite, les règles d'ajustement des parties en une collectivité, c'est-à-dire la normalisation constitutive d'un corps de société d'une communauté, sont extérieures aux multiples ajustés, tandis que dans un organisme vivant, ces mêmes règles sont, je cite, immanentes, présentes sans être représentées, agissantes sans délibération ni calcul. L'organisme social comporte donc, selon Canguilhem, quelques caractères du mécanisme. Et il dit « Une société est à la fois machine et organisme ». Et plus loin, il constate que, je cite, « les phénomènes d'organisation sociale sont comme une mimique de l'organisation vitale, au sens où Aristote dit de l'art qu'il imite la nature. Il tend à retrouver le sens d'une production. L'organisation sociale est par conséquent invention d'organes ». Canguilhem propose donc une notion de norme sociale qui, dans son mimétisme, renvoie à la dimension organique de la vie, qui, par conséquent, n'interagit pas avec l'autre pôle de la vie, sa dimension proprement vitale, c'est-à-dire transgressive. De cette manière, et bien que Canguilhem ait fourni tous les éléments nécessaires pour penser le rapport entre normes sociales et normes vitales dans une optique explicitement normative, il se résiste à articuler ce déplacement. Et ce sera Foucault et le Foucault des cours de la fin des années 70 qui proposent un élargissement, qui, eux, les cours, proposent un élargissement de la notion de biopolitique vers celle de gouvernementalité, qui va fournir les éléments nécessaires pour penser une théorie du pouvoir qui tient compte de la vie, comme polarité, et je reviens à la dernière partie, qui est brève. Pour Foucault, la biopolitique est une modalité du pouvoir qui surdétermine à un moment historique précis les autres modalités du pouvoir. C'est pourquoi il propose une généalogie du pouvoir qui n'aspire pas à dévoiler des éléments transhistoriques ou à découvrir le moment originaire et fondateur du pouvoir en général, mais au contraire à analyser des constellations concrètes de pouvoir-savoir comme condition de la constitution de l'imposition de régimes spécifiques du pouvoir. C'est ainsi que Foucault va reformuler la notion de biopolitique introduite dans la volonté de savoir comme pouvoir investissant la vie de part en part dans les séminaires des années 77 à 79, donc sécurité, territoire, population et naissance de la biopolitique. Foucault va donc élargir la compréhension de la biopolitique vers une notion de biopolitique qui, est, comme nous l'avons déjà dit, non seulement vise la vie comme son objet, mais également comme modèle de fonctionnement, c'est-à-dire qu'elle mimétise la dynamique du vivant, justement dans le sens aristotélico-canguilhémien. Dans les cours sécurité, territoire, population, Foucault va donc éloigner la notion de la biopolitique des disciplines décrites comme anatomopolitique du corps humain, avec lesquelles la biopolitique de la population formait, encore dans la volonté de savoir, les deux formes principales du pouvoir sur la vie qui se développe depuis le XVIIe siècle. Cette séparation conceptuelle est marquée par un nouveau nom du pouvoir sur la vie, la gouvernementalité ou le dispositif de sécurité. Le réagencement que Foucault entreprend s'articule alors autour de la question de la norme. Foucault reformule ici l'opération de la norme disciplinaire comme une normation qui s'oppose à la normalisation des normes de sécurité. Tandis que la normation disciplinaire part d'une norme établie et organise le dressage autour de cette norme qui sert comme pierre de touche pour la différence normale-anormale, la normalisation crée sa propre norme en faisant jouer différentes distributions de normalité, dit Foucault, et en faisant en sorte, je cite, que les plus défavorables soient ramenés aux plus favorables. La norme est alors un jeu à l'intérieur des normalités différentielles et, je cite, l'opération de normalisation consiste à jouer et à faire jouer les unes par rapport aux autres ces différentes distributions de normalité. Fin de citation. Le fonctionnement des dispositifs de sécurité suit donc la dynamique du vivant. Il laisse libre cours aux phénomènes vitaux, mais se greffe sur leur dynamique. Elles mettent à disposition les outils et créent les conditions nécessaires pour que la vie puisse s'autoréguler librement. Je cite, le dispositif de sécurité laisse faire. Non pas qu'il laisse tout faire, mais il y a un niveau auquel le laisser faire est indispensable. Fin de citation. Afin de réguler, contrôler et gouverner la vie de forme plus efficace, les techniques de pouvoir adoptent la dynamique immanente de la vie comme modèle et l'extériorisent en la transposant aux normes sécuritaires. Ceci veut dire que, contrairement à la loi souveraine ou aux prescriptions disciplinaires, le dispositif sécuritaire représente un processus centrifuge intégrant sans cesse de nouveaux éléments expansifs et s'appuie sur une réalité qui n'est sujette à des jugements moraux mais considérée comme processus nécessaire de nature au sens large. Et finalement, le sécuritaire n'adopte ni le point de vue négatif de ce qui est empêché, comme la loi souveraine, ni celui de l'obligatoire, le règlement disciplinaire, mais il saisit, je cite, le point où les choses vont se produire, qu'elles soient souhaitables ou qu'elles ne le soient pas. Par conséquent, Foucault résume que, contrairement à la loi qui interdit la discipline qui prescrit, je cite, « sans interdire ou sans prescrire, éventuellement cependant en se donnant quelques instruments du côté de l'interdiction et de la prescription, la sécurité a essentiellement la fonction de répondre à une réalité de manière à ce que cette réponse annule cette réalité à laquelle elle répond. L'annule ou la limite ou la freine ou la règle. » Fin de citation. Tel est le cas des techniques d'inoculation contre la variole, l'exemple est très connu, qui neutralise la réalité de la maladie en s'appuyant sur, voire en provoquant la maladie même. Ainsi, les normes d'une société de normalisation, évidemment artificielle, imitent l'impulsion à créer des normes qui est naturelle ou vitale. De même, l'agir du pouvoir sur le milieu est un rapport extérieur artificiel, mais la création, la modification du milieu est une impulsion vitale, dont la logique est reprise par le pouvoir. C'est ce qu'explique Foucault dans son analyse de l'espace sécuritaire comme milieu à la fois naturel et artificiel. Dans son rapport au milieu, la biopolitique reprend donc la logique du vivant car, premièrement, ces techniques opèrent, comme l'écrit Foucault, avec des probabilités, des éléments aléatoires projetés dans l'avenir, ce qui permet, contrairement aux disciplines, de tolérer des écarts individuels en vue de l'équilibre global. Et, deuxièmement, elles s'appuient sur les données naturelles, géographiques, climatiques qu'elles intègrent dans le fonctionnement du pouvoir. La biopolitique gouverne avec, donc avec, et non pas contre la nature. L'établissement d'une zone d'indistinction entre le naturel et le social est donc un trait caractéristique de la biopolitique qui se reflète également dans la constitution par les techniques du biopouvoir ou de gouvernementalité du nouveau personnage politique, la population, comme phénomène pseudo-vital. Les techniques biopolitiques mettent alors à disposition de la vie de cette population, tout d'abord créée par elle, les moyens de s'autoréguler et s'organiser librement, entre guillemets. Elle crée des conditions, un milieu favorable pour que la population puisse maintenir son équilibre intérieur. Mais au-delà du maintien homéostatique, les techniques biopolitiques ou gouvernementales prennent également en compte la dynamique transgressive de la vie en encourageant son autodépassement, ce qui aujourd'hui s'articule, et on en a déjà parlé hier, notamment dans les théories du soi entrepreneur, du capital créatif, devenu la pierre de touche d'un néolibéralisme directement branché sur la réalité dite sociale de la population. Les techniques de sécurité se projettent donc avec la vie. Elles ne supposent aucun modèle préfabriqué, mais elles sont des paris ou des provocations, pour reprendre les termes de Pierre Macheret. C'est ainsi qu'elles sont capables, contrairement aux techniques disciplinaires ou souveraines, de faire face à la double normativité de la vie, non seulement dans son versant organique, mais aussi dans son versant vital, c'est-à-dire dans sa dimension aléatoire, fondamentalement et premièrement précaire. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la définition foucauldienne de la biopolitique comme pouvoir positif sur la vie. C'est un pouvoir qui s'appuie sur la productivité interne de la vie et engage sa normativité afin de dominer plus efficacement son objet. Par conséquent, la biopolitique et les formes de gouvernementalité partagent une double relation avec les phénomènes vitaux qu'ils gouvernent et dont ils imitent la dynamique propre en la transposant en normes sociales qui fonctionnent, comme j'ai déjà dit au début, comme si elles étaient vitales. L'existence d'une force vitale donnant lieu à des mouvements de résistance serait par conséquent, comme l'a déjà indiqué Canguilhem avec sa formule de la polarité de la vie, qu'un élément organique de la biopolitique, qui, en imitant la dynamique vitale, imite le jeu polarisé entre la création et la conservation des processus vitaux. La supposition qu'une politique de la vie puisse exister, et c'est je termine avec ça, sur ça, puisse exister au-delà des relations de pouvoir est donc contredite avant la lettre par Canguilhem quand il insiste encore et toujours sur l'implication indissociable de la dynamique normale avec la dynamique normative. Il n'y a pas de pouvoir de la vie qui puisse exister indépendamment d'un pouvoir sur la vie, ni vice-versa, car la vie est fondamentalement polarité. C'est pourquoi la résistance au pouvoir doit prendre, chez Foucault, la forme de contre-pouvoir ou contre-mouvement, toujours inextricablement lié aux relations de pouvoir, et elle serait localisée, je pense, bien plus dans une interprétation des figures plébéiennes dans la pensée de Foucault que dans l'affirmation d'une force de la vie incontaminée par les relations de pouvoir, concept que, comme j'espère l'avoir montré, est impensable avec Foucault. Merci beaucoup.